La musique soul de JP Bimini démarque sur l'île-dieu le samedi 4 mars au Casino. Le deuxième album Give Me Up est disponible. Bonjour JP.
Bonjour, bonjour, bonjour Lars. Très très enchanté de vous avoir à discuter ce matin.
Mais moi aussi, enchanté également JP. Quels thèmes sont abordés dans ce nouvel album, car je ne parle pas anglais?
Oh, bon, le deuxième album, Give Me Hope, qui traduit directement Donne-moi de l'espoir. C'était un album écrit après le premier qui était Free Me, Libère-moi. Et puis, ça tombait bien dans un moment où il y avait le Covid, lockdown pour 2 ans, tu vois. Il y avait un sentiment que le monde était en train de s'écrouler, quoi, tu vois. Et c'était un peu, il y avait une lourdeur. Mais c'était une lourdeur qui était après une autre, après, dans la gestion des choses, et globalement, tu vois. On a eu Donald Trump, on a eu les extrêmes en Europe, on voit des guerres ici par là, et puis le Covid. C'était comme tout un tas de trucs. C'est juste un appel aux gens de toujours avoir cette ténacité à toujours avoir la foi. Voilà.
La foi et l'envie d'aller de l'avant, donc un album optimiste.
Voilà, voilà.
Car Give Me Up, tu nous l'as dit, on peut le traduire par Donne-moi le dessus, par exemple.
Voilà, voilà, parfait.
Donc les thèmes abordés, c'est vraiment l'espoir, en gros.
Il y a l'espoir, en gros. La fraternité aussi, tu vois. Cette fraternité aussi, cette solidarité humaine. Parce que personnellement, chacun dans son coin peut rien faire. Ok, on peut faire quelque chose, mais pas grand-chose. Mais si on est tout le monde, c'est ce petit caillou que j'appelle la Terre, tu vois.
Ouais.
Nous sommes en village, quoi. Tu vois. Alors. Et de plus en plus même, parce qu'il y a la technologie qui fait que si tu tous au bout du monde, je peux t'entendre de ce côté-ci.
La preuve aujourd'hui, parce que là, tu es à Londres, on peut le dire.
Voilà, tu vois.
Donc, en gros, également un album vers l'ouverture sur le monde.
Sur le monde, et je sais que le thème a été abordé bien avant, mais... Il faut toujours interpréter. Ce qu'il y a une chose dans l'humanité avec les gens, c'est que les gens oublient très vite.
Tu rends également hommage à Martin Luther King sur cet album et James Stern. Qui était James Stern?
James Stern, c'est un gars qui, par hasard, avec les événements dans sa vie, s'est retrouvé dans une situation où il était incarcéré avec un des plus... les leaders du Ku Klux Klan, dans la prison. Et d'un coup, par cette gentillesse, avec cette foi dans l'au-delà, au lieu de voir un raciste, il a vu un homme qui est vraiment battu, vraiment perdu, tu vois, dans le sens avec la vie, ce que ça veut dire. Et d'un coup, par des petites, avec patience, des conversations, il a fini par convertir le gars, du Ku Klux Klan, et que le gars du Ku Klux Klan a rendu tout ce qui était propriété au groupe de Ku Klux Klan tant que représentant légal. Vous voilà, dans un coup, un gars qui est black, qui est à la tête du Ku Klux Klan.
Ça, c'est fou comme histoire. On pourrait penser à un synopsis de film ou de série.
Il y a un réalisateur américain qui a fait un film, c'est pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 ans, et qui a touché un peu de ça. Infiltré, c'était là la police, mais ça, c'est l'encarcèlement avec l'un des leaders du Ku Klux Klan. Et je crois que quelque part, le bouquin va sortir, un film va sortir. Et pour moi, c'est un gars, pour moi, avoir ce courage, you know, cette sérénité en lui, de ne pas être... perturbé par des remarques racistes et tout ça, blablabla, parce que pour moi, quand les gens attaquent les autres comme ça, c'est toujours une projection, ça n'a rien à voir avec l'autre, c'est l'autre personne qui projette leur insécurité, leur façon qui n'est pas aisée, quelque chose qui les ronge, tu vois, mais essaie de projeter ça aux autres. Mais quand on comprend cette psychologie, et que je comprends que James Stein a bien compris ça, il a pris son temps à l'aise et tranquille, il a vu que le gars vraiment souffrait avec le mouvement. Mmh. Ce qui est très important, c'est qu'un gars, une personne, arrive à faire ça, à démanteler tout un système ou un groupe de racistes, alors que tout un État fédéral, pour tant des années, avec tant de souffrances, n'a pas pu faire. Let me tell you about this man. James Stern was his name. Everybody got to know him, 'cause he was a real king. Let me tell you about this man. James Stern was his name.
Durant tes concerts, est-ce que tu mêles également des titres de ton premier album Free Me?
Ouais, bien sûr. Dans le concert, on fait un mélange de chansons du premier album et du deuxième album pour juste garder, parce que on rencontre beaucoup de nouveaux audiences, tu vois. Ça veut dire, et quand tu as la scène et les gens ont acheté ou bien qu'ils sont très qu'ils ont écouté le premier album, pas encore le deuxième, c'est donner l'opportunité à écouter les deux. On fait les deux.
D'ailleurs, ton premier album, tu parles plutôt de ton expérience vécue.
Free Me, c'est, ça tombait bien que ça faisait des années où je cherchais comment percer dans la scène musicale. Et d'un coup, la chanson qui était envoyée comme le premier projet de travail pour voir si on peut travailler ensemble, le titre c'était exactement Free Me. Et c'était comme un omen. Pour moi, je me suis dit, ah là là, ça tombe bien. C'est pourquoi je me suis lancé carrément derrière le projet et disant, là, je crois que c'est le bon timing. Et voilà, on est là.
Avant ces deux albums, tu participais à un tribute d'Otis Redding, car on peut dire que c'est ton maître à chanter.
Ouais, bien sûr, absolument. Parce que moi, j'aimais comme ça, tranquillement, Otis Redding, tant qu'autre artiste comme Marvin Gaye, Sam Cooke, Ray Charles, dans d'autres genres de musique. Et parfois que j'écrivais mes propres chansons comme ça, et quand je jouais sur des micros ouverts à Londres, où il y a la soirée quand tu veux aller chanter devant les gens, dans des bars, et il y a un promoteur français un jour, il m'a approché, il m'a dit, écoute, et tu crois que tu as un truc de TC, du old soul, truc en toi? Il faudra essayer de faire un truc, un cover band ou un tribute ou un de grand. Et moi, je me suis dit, ça flatte, mais je ne crois pas. Et un jour, ils sont venus, tout un groupe avec le même promoteur de musique qui est un ami à moi qui s'appelle. Il avait un groupe de collectif des musiciens à Londres, maintenant qu'il fait à Limoges, s'appelait Raison d'être, Yvan Serrano. Et puis il me dit, écoute, ça c'est un groupe de Otis Redding, et je crois que je vous ai proposé comme chanteur parce que je crois que tu pourrais le faire. Et pour moi, j'ai jamais fait tant de choses, tu vois. et ça me faisait peur. Et ça faisait même un bout de temps quand je jouais avec eux, je donnais le dos à l'audience. Et d'un coup, j'ai commencé à travailler avec le groupe. Et deux ou trois fois, j'ai failli. Je disais, moi, je crois pas que je vais arriver à faire Otis parce que. C'est quand même c'est de l'énergie sur scène et dans l'expression de comment ils chantent ces chansons. C'est beaucoup d'énergie, quoi. Et ce que j'aimais, parce que je faisais aussi le rock, tu vois, et j'aimais cette façon d'intensité sur scène. Et puis, et deux ou trois fois, je faisais des enregistrements quand on faisait des répétitions. Et quand je rentre à la maison, j'écoutais les répétitions. Je me disais, non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Il n'y a pas moyen de faire ça. Et d'un coup, chaque fois que j'allais, je disais au directeur du groupe, je disais, écoute, il faut chercher quelqu'un d'autre. Je crois pas que je vais y arriver. Il me dit, non, ça va aller. On continue. Et d'un coup, chaque fois que j'allais à la répétition, je m'attendais d'être viré. Et j'étais prêt.
Tant mieux pour toi, c'est chouette.
Moi, j'étais prêt pour quitter. Mais d'un coup, et ça grandit et j'ai commencé à me sentir que, ouais, il y a autisme à dire, mais j'ai appris quelque chose d'autisme à dire. Et quelque part, j'ai essayé de mettre quelque chose de moi et quelque chose d'autiste pour qu'il soit authentique au moins, pas seulement copier-coller, tu vois.
Ouais, tu as mis ta personnalité dans les chansons d'Otis Redding.
Ouais, et d'un coup, en faisant le Black Belt, ce truc doucement, il y a un journaliste de l'Italie, un jour, il m'a dit, écoute, moi j'entends des gens disent, et on te compare au Otis Redding tout le temps, mais quand je t'écoute, quand je fais voix sur scène, de temps en temps, j'entends JP Bimini, et je dis, ah, comment t'es arrivé?
Donc tu as trouvé ta patte là, quoi.
Je crois. Pour moi aussi, tant que chanteur, il y a quelque chose de psychologique. Quand tu entends ta voix, quand tu parles, il y a une différence quand tu entends ta voix à travers les basses, les speakers, tu vois. Il y a quelque chose parce qu'il n'y a pas quand, apparemment, quand on parle, il y a des vibrations dans les oreilles, dans ta tête et partout. Mais quand tu écoutes ta voix à travers les radios ou tout ça, t'es calme, il n'y a pas de vibration dans ton corps. Ça veut dire que ton écoute est plus claire, c'est différent.
C'est vrai qu'il y a une différence entre parler dans la vraie vie, que ce soit parler à la radio ou même chanter.
Voilà, et quand tu t'écoutes quand tu parles, et quand tu t'écoutes quand il y a quelque chose qu'on joue à la radio, tu vois, et que tu t'écoutes, c'est différent quand tu écoutes ta voix de deux façons.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, JP. Peux-tu nous présenter les musiciens du groupe espagnol The Black Belts qui t'accompagnent sur scène?
Ouais, il y a sur la batterie, il y a Nignon, il y a basse, il y a Pablo, il y a guitare, il y a Fernando, et au clavier, il y a Alex, trompette, Richie, et au saxo, on a Raphaël.
C'est pas commun tout de même. Comment tu les as rencontrés, ce groupe espagnol, car tu vis à Londres?
C'est que quand je faisais le groupe de Otis Redding, ils avaient un autre groupe qui a produit, qui ont aussi un studio de production, des artistes, tout ça, et aussi qui est aussi un groupe qui donne du support aux artistes américains ou internationaux qui arrivent en Europe, qui veulent faire la tournée en Europe avant qu'ils soient connus. Ce groupe Subidometa, ils ont leur propre projet, beaucoup de projets même. Et un jour, leur chanteur ne pouvait pas venir avec eux chanter en Espagne, à Viles. C'est à l'ouest de l'Espagne, au nord-ouest. Et d'un coup, ils n'avaient pas le chanteur. Ils ont demandé à mon groupe d'autistes, est-ce qu'on peut emprunter JP Bimini et chanter avec nous? Et quand j'ai entendu Espagne, j'ai dit, dans l'été, j'ai dit, bah ouais.
C'est chouette, il va faire beau.
J'ai dit, bien sûr. Mais le truc, c'est que moi, pour jouer avec les gens, il faut que je les rencontre, que je passe un peu de temps avec eux. On joue ensemble dans les répétitions pour connecter. Voilà, tu vois.
Pour bien se connaître, quoi.
Voilà. Mais le truc avec le groupe, on s'est rencontrés sur scène en Espagne. Et lequel était le groupe qui jouait à le dernier. Ça a été très important. C'est-à-dire que ça m'a donné la trouille. C'était vraiment un peu très profond pour moi. Et d'un coup, je me suis dit, OK, je vais essayer. Après le concert, je me suis dit, OK, j'ai vraiment essayé, j'ai pas trop fait. Et d'un coup, quand je suis arrivé à Londres, j'ai eu un coup de fil à partir de Madrid. Les gens me disent, on vous a vu à Villette. Et on a aimé beaucoup ce que tu fais, on cherchait exactement tout ce que tu fais. Et ta personnalité, ta façon de chanter, ta présence, tout. Je dis non, ces gens, ils sont en train de rigoler, tu vois.
Il faut une blague, quoi.
Et à l'internet, on t'écrit, tu ne sais jamais si c'est...
Si c'est du fake ou pas, ouais.
Voilà, je me suis dit, ok, moi je vais prendre un jour, le lundi, c'était un week-end, je dis, le lundi, je me réveille, je vais faire un peu de recherche sur qui ce sont ces gens. Et j'ai fait un peu de recherche. J'ai dit, ah, ils sont sérieux, ils existent, quoi. Et d'un coup, ils m'ont dit, tu aimes jouer avec nous, travailler avec nous, on a parlé un peu. Ils m'ont envoyé quelques chansons, j'ai travaillé sur ça, je les ai envoyées à eux. Ils ont aimé, et d'un coup, ils se disent, ok, il faut venir à Madrid pour parler tout, et voir comment faire. Et voilà, ça a commencé.
Ça a commencé comme ça, et maintenant, ils t'accompagnent sur tes deux albums.
Voilà, exactement.
Est-ce que tu penses déjà à un troisième album, ou parce que le Give Me Up est juste sorti?
Parce que là, le Give Me Up vient de sortir 2022, en février, et là, c'est juste une année, et c'est encore nouveau parce que parce que le premier album, on a vraiment tourné beaucoup, à fond. Mais après le Covid, tout est ralenti. On sent un peu que le deuxième album, on a besoin de faire tourner à fond. Parce qu'il y a beaucoup d'audience à nous aussi qu'on a rencontré avec le premier album, qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'écouter, de nous voir sur scène avec la musique, tu vois. Mais, bien sûr, on a déjà commencé à parler, à penser au troisième album, et qui va être très très important. Je me suis dit, ok, on a encore un peu de temps, je me donne une année pour écrire avec le groupe, et si tout va bien, on va voir, ouais, bien sûr, le troisième album, on y pense, et on travaille tout doucement, mais sans trop... j'aime vivre les choses avant d'écrire, tu vois.
T'aimes bien que les chansons et les textes prennent maturité.
Voilà. Parce que là, le truc de chaque année, deux ans, sortir un album, je sens que c'est un peu trop ouf. Parce que pour moi, la musique, c'est très important. J'aime ça. Jusque même au ventre, là, je suis en train de parler, mais là, au ventre, c'est comme que ce soit vraiment un mois, c'est un truc vécu. C'est la musique, pour moi, c'est... C'est un peu plus profond que la musique. Je sais pas comment expliquer.
Si, c'est en fait, ça vient de toi, c'est vraiment, ça vient de ton âme.
Voilà. C'est bas, comme à l'industrie, comme à factory, c'est, je sais pas.
Oui, en fait, tu fais pas de la musique pour, la musique pour toi, c'est vraiment une passion.
Voilà. C'est profond, je dois être dedans, quoi.
Et on te retrouve sur l'île Dieu avec ton groupe espagnol, on rappelle, The Black Bells, ça se dit bien comme ça ?
Ouais, les Black Bells.
Le samedi 4 mars au casino, est-ce que tu connais un petit peu l'île Dieu déjà, ou pas du tout ?
Non, tu sais, je ne savais même pas. Et d'un coup, j'ai fait un petit recherche il y a des jours, j'ai trouvé que c'est un petit île, une fois, c'est à l'ouest.
Exactement.
Ouais, hein.
À l'ouest de la France, en Vendée.
Et j'essaie de voir comment le paysage, il y a un casino supermarché, casino façon des événements, quoi. Il y a deux casinos. C'est ça qui a fait un peu de confusion quand je faisais des recherches.
Tu m'étonnes. JP, merci beaucoup. On te retrouve en grande forme, on l'a bien compris. Voilà. Le samedi 4 mars sur l'île Dieu. Bonne journée.
Merci encore. Bonne journée.